Radio Prague, les informations.
Aucun accord n'a été trouvé sur le programme de la future coalition gouvernementale. Selon Transparency International, les mesures anticorruption discutées par la future coalition auront un impact minimum et en tennis, Radek Štěpánek forfait à Wimbledon et en Coupe Davis. Bonjour, les leaders des partis de la future coalition gouvernementale, l'ODS, Top 09 et Affaires publiques, n'ont réussi à s'accorder sur aucun des chapitres devant constituer le programme du futur gouvernement. Lors d'une nouvelle ronde de négociations ce jeudi, l'attention était portée sur le système des retraites et des questions de santé publique. Petr Nečas, chef de l'ODS, a également expliqué après cette réunion de 2 heures que le chapitre sur l'écologie a encore besoin de modifications. C'est pourquoi le sujet sera à nouveau à l'ordre du jour des prochaines rencontres. Selon le président de la section tchèque de l'organisation non gouvernementale Transparency International, les mesures anticorruption qui sont actuellement discutées par les partis de la future coalition gouvernementale auront un impact minimum. Bien que tous insistent sur l'importance de la lutte contre la corruption, nous sommes vraiment navrés de constater que les discussions ont dégénéré en négociations sur un certain nombre de mesures répressives controversé, a déclaré Václav Laska, le président de la section tchèque de Transparency International. L'organisation prône en effet une démarche et des mesures plutôt préventives. Le président de la République, Václav Klaus, ne participera pas au congrès du Parti civique démocrate qui se déroulera samedi prochain. Selon son secrétaire Ladislav Jakol, il s'adressera au congrès par une lettre de salutation. Václav Klaus avait reçu une invitation du leader du parti, Petr Nečas. Il avait fondé, Václav Klaus, l'ODS il y a 20 ans pour le quitter il y a plus d'un an. Dimanche, ce principal parti de droite va choisir sa nouvelle direction. Et c'est avec un ton plutôt virulent que les responsables des partis formant la future coalition gouvernementale ont appelé l'actuel gouvernement Fischer, dont les fonctions vont prendre fin très prochainement, à se limiter au traitement des affaires courantes. Ils critiquent des changements de personnel chez l'opérateur de fret tchèque ČD Cargo et invitent Jan Fischer à n'ouvrir aucun nouveau dossier ni à ne nommer aucun nouvel ambassadeur. C'est ce soir à 21h30 que prendra fin l'état d'urgence en Moravie qui avait été déclaré à cause des inondations de mai dernier. Pour les collectivités locales et les habitants qui ont été touchés par la montée des eaux, il faut maintenant gérer les conséquences de ces inondations. Beaucoup ont vu leur logement et leurs propriétés endommagées. Dans certaines zones, l'eau n'est pas encore totalement écoulée et les populations doivent faire face à la prolifération des moustiques, comme l'a révélé une enquête de la ČTK, l'agence de presse tchèque. Et en tennis, Radek Štěpánek, suite à une blessure au genou gauche contractée à l'entraînement, sera forfait au tournoi de Wimbledon qui commence ce lundi. Le 25e joueur mondial à l'ATP, le Tchèque de 31 ans, est absent du circuit depuis le mois de mars dernier en raison d'une grande fatigue. Il ne jouera pas non plus le quart de finale de la Coupe Davis contre le Chili du 9 au 11 juillet prochain. En météo vendredi, le temps sera couvert et orageux en République tchèque avec des éclaircies sur la Bohème centrale et la Bohème du Sud. Les températures maximales stagneront entre 18 et 22 degrés et nous fêterons demain les Milan selon le calendrier local. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'édition de ce jour, nous évoquerons le centenaire des Žluté Lázně, un lieu convivial situé sur les berges de la rivière Vltava. Paris et Montpellier rendent hommage à Jiří Kilian, chorégraphe d'origine tchèque, au style éclectique et inclassable, qui a fait la renommée du Netherlands Dance Theater de La Hague. Enfin, un mot de sport pour finir avec du foot, évidemment. Le club de Sparta Prague a engagé 2 joueurs camerounais. Guillaume Larguet nous donnera des détails. Bonne écoute à toutes et à tous. Les bains jaunes ou Žluté Lázně en tchèque, établissement des bains publics situé sur la rive droite de la Vltava, fête ces jours-ci son centenaire, l'occasion d'évoquer le passé et le présent de cet établissement qui a joué un rôle important dans les loisirs des Pragois et qui aimerait aujourd'hui renouer avec sa gloire d'antan. Václav Richter.
Le 16 juin 1910, les nageurs et les amateurs de bains de soleil pragois se sont vus offrir un joli cadeau. C'est grâce à une initiative de l'association des bains fluviaux que se sont ouverts ce jour-là sur l'ancien poste d'amarrage de radeaux de la Vltava des bains publics d'une capacité de 9000 visiteurs. Selon l'historien Jiří Frost, l'établissement a été l'un des meilleurs de son genre.
Les bains jaunes ont fait partie des bains fluviaux les plus populaires, les plus fréquentés et les plus recherchés. Les gens les fréquentaient très assidûment, ce qui veut dire que la majorité des baigneurs y réservaient des vestiaires permanents.
Situé un peu en amont de Prague, les bains jaunes proposaient aux nageurs des baignades dans une eau qui n'était pas encore polluée par son passage par la capitale. Sous la chaleur d'été, l'établissement devenait un important centre de loisirs et de vie sociale. Le témoignage d'une cliente qui fréquente les bains jaunes depuis un demi-siècle démontre que les baigneurs y jouissaient aussi d'un certain confort.
Il y avait une multitude de cabines et il y avait aussi des piscines en bois. Vous savez, c'était dans mon enfance, il y a 50 ans. Il y avait donc 3 piscines en bois, une piscine étant réservée aux enfants et une autre aux nageurs adultes. Évidemment, il y avait aussi l'entrée dans la rivière, je me baignais dans la Vltava et je nageais toujours jusqu'à la rive opposée. Bien sûr, je n'arrivais pas à le faire quand j'étais toute petite, mais un peu plus tard. C'était bien différent. Il y avait plus d'espace, il y avait beaucoup de bancs, des arbres donnaient de l'ombre et de la fraîcheur. On pouvait se détendre.
Les Pragois y venaient aussi pour faire du sport. C'est au bain jaune qu'est d'ailleurs né un nouveau sport, le nohéiball, appelé en français le tennis ballon. C'est entre les années 1930 et 1960 que la popularité des bains jaunes a atteint son apogée. Dans les années 60, on pouvait y voir, parmi les baigneuses, la plantureuse beauté Olga Choberova, future star de cinéma. La fin des années 60, cependant, a amené le déclin de l'établissement. Le public, attiré par d'autres piscines et lacs artificiels dans les environs de Prague, s'en est détourné progressivement et la direction de l'établissement n'a alors pas fait grand-chose pour l'attirer. Ce n'est qu'en 2005 que l'établissement renaît de ses cendres. Aujourd'hui, il propose au public une plage sur la rive de la Vltava, un espace pour les naturistes, des cafés et des restaurants et plusieurs terrains de sport. Ce n'est plus seulement un établissement d'été. Même en hiver, les visiteurs y trouveront une piste de descente pour enfants, des pistes pour skieurs de fond et snowboarders.
Jiří Kilian est le chorégraphe tchèque le plus connu hors des frontières de son pays d'origine. Paris et Montpellier rendent hommage en ce début d'été à l'ancien directeur artistique du célèbre Netherlands Dance Theater. L'occasion de revenir sur le parcours de cette personnalité incontournable de la danse contemporaine. C'est d'abord le cirque et l'acrobatie qui séduisent Jiří Kilian tout petit. Mais à 9 ans, il intègre le ballet du Théâtre National de Prague, étape qui marque le début d'une carrière entièrement dédiée à la danse. D'abord en danseur, interprète, Jiří Kilian est aujourd'hui connu et reconnu comme chorégraphe. Après une bourse à la Royal School of Ballet de Londres, il rejoint le ballet de Stuttgart en 1968 et travaille sous la direction de John Cranko qui le mène à la chorégraphie. Mais c'est par le Netherlands Dance Theater dont il devient directeur artistique en 1976 que Jiří Kilian se fait un nom. Créateur de plus d'une centaine de ballets, le travail de Kilian a progressivement évolué vers l'abstraction dans les années 80. La compagnie implantée à La Hague, en Hollande, prend ses lettres de noblesse sous sa direction, notamment grâce à des projets tels qu'une troupe pour les danseurs de 40 ans et plus. On écoute Jiří Kilian évoquer à la radio publique tchèque, il y a quelques années, le NDT3, malheureusement aujourd'hui disparu pour des raisons financières.
Le pire, c'est quand vous travaillez avec un danseur pendant 20 ans, vous vous influencez mutuellement pendant tout ce temps. Un jour, il a 40 ans, c'est un artiste mûr, mais il n'a plus la capacité de faire ce que vous lui demandez. C'est terrible. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière de chorégraphe. J'ai dû dire à des danseurs âgés, « Je t'aime beaucoup, mais ça ne va plus ». Ce sont les pires moments d'un directeur de ballet. C'est pourquoi j'ai créé le NDT3, où j'ai utilisé les qualités individuelles charismatiques de telle façon que sur scène on pouvait voir des personnes de 50, 60 ans qui ont des choses à dire totalement différentes que quelqu'un de 20 ans.
Qui a quelque chose à dire, quelque chose qui est complètement différent que 20-letý tanečník.
Cette ouverture est typique du travail de Jiří Kilian, qui a également formé des générations de danseurs.
Je pense que le plus important, c'est que le danseur possède une identité propre. C'est l'alpha et l'oméga. Certains sont plus musicaux, d'autres plus élancés, d'autres plus beaux. La musicalité est évidemment très importante, mais surtout l'ouverture. Il faut qu'il soit capable d'accepter des choses nouvelles dont il ne sait rien. Pour moi, le pire, c'est quelqu'un de renfermé qui ne voit pas ce qui l'entoure. C'est ce type de choses qui sont importantes pour un danseur de chez Kilian.
Aujourd'hui, le ballet de l'Opéra Bastille à Paris vient de faire rentrer la création de Kilian Kaguya-hime à son répertoire, un ballet inspiré d'une légende japonaise qui sera joué jusqu'au 15 juillet prochain. Autre ville à rendre hommage au travail inclassable du plus éclectique des chorégraphes tchèques, Montpellier et son festival qui mettra à l'honneur le NDT les 28 et 29 juin. Si à 63 ans, Kilian a définitivement quitté le NDT, dont il était dernièrement chorégraphe résident associé, son nom reste encore indissociable de la troupe. Plus de 20 ans après la révolution de velours, les changements politiques et l'ouverture des frontières, rares encore sont aujourd'hui les joueurs étrangers, et plus encore africains ou de couleur, à évoluer dans les équipes tchèques de football. Sacré champion de République tchèque la saison dernière, le Sparta Prague ne possédait ainsi qu'un seul joueur noir dans son effectif, le jeune attaquant ivoirien Bonny Wilfried. Malgré tout, les choses changent peu à peu. Lundi, ainsi, les dirigeants du Sparta ont annoncé avoir engagé deux Camerounais et testé deux autres Ghanéens, Guillaume Narguet.
Bondoua Adiaba et Léonard Kweke, ce sont les noms du défenseur et de l'attaquant camerounais que les supporters, tendance plutôt crâne rasé du Sparta de Prague, devront apprendre à prononcer dans les semaines à venir, avant la mi-juillet et l'ouverture de la nouvelle saison du championnat tchèque. Deux joueurs camerounais de 23 ans qui ont signé pour un prêt d'un an avec option d'achat et arrivés directement en provenance de Slovaquie, chercher l'erreur. Le plus expérimenté des deux, au vu de leur précédent parcours, est sans doute Léonard Kweke, auteur de 11 buts en 16 matchs lors de son arrivée en Slovaquie en 2008. Il a ensuite été prêté en Allemagne à l'Eintracht Francfort et à l'Énergie Cottbus. Parallèlement à la signature d'Adiaba et Kweke, le club pragois, actuellement en stage de préparation à Bohême de l'Ouest, teste également deux jeunes Ghanéens, Abeiku Kansa et Enoch Kofi Adu, en provenance, eux, de l'OGC Nice. Les concernant, l'encadrement technique du Sparta devrait prendre une décision au plus tard, en fin de semaine prochaine, au retour d'un nouveau stage, cette fois en Autriche. Quoi qu'il en soit, c'est une évidence, le club le plus titré de République tchèque a décidé de se tourner vers l'Afrique pour répondre au manque de talent auquel il est confronté à l'échelle nationale. Pour Bonny Wilfried, l'avant-centre ivoirien du Sparta, il peut s'agir d'une solution car selon lui, peu importe qu'il s'agisse de joueurs tchèques ou africains.
Moi, je pense que c'est pas important, le football n'a pas de langue. C'est l'adaptation et le vouloir. Quand tu veux, tu peux. C'est ça, quoi. Une fois que t'es là, tu te dis bon, tu tranquillises ta tête, tu travailles le maximum possible et les résultats suivront.
On sait que l'une des politiques en ce qui concerne le recrutement du Sparta de Prague est justement d'essayer de chercher des jeunes joueurs, alors ailleurs dans le monde qu'en Europe, essentiellement pour une raison financière, mais aussi parce que notamment l'Afrique est une terre où il y a beaucoup de jeunes talents. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres joueurs africains qui pourraient intégrer le Sparta ou alors venir dans le championnat tchèque?
Je pense bien, mais comme je dis actuellement c'est pas, je suis ici pour me faire une place, je suis ici pour, ils savent que bon, j'ai montré un peu ce que je sais faire, donc ils savent que vraiment les joueurs en Afrique, ils voient partout, les joueurs en Afrique partout, même jouer ici contre Kodagne, ils voient un peu partout les joueurs, et bon, c'est à eux de chercher, comme ils ont des scouteurs, et puis s'ils me demandent s'il y a des amis, je dis, monsieur, les amis, ils sont tous de bons joueurs, c'est à eux de chercher, j'ai même entendu qu'il y a des Camerounais qui vont bientôt signer là, donc qu'ils étaient en test là. Et je pense que ce serait une bonne chose, quoi. Voilà.
Plus encore qu'un souhait, cette orientation vers l'Afrique est avant tout une nécessité économique pour le Sparta ou le Slavia de Prague, qui lui aussi teste plusieurs joueurs étrangers, dont certains Africains en cette période de pré-saison. La majorité des jeunes joueurs tchèques de talent qui évoluent dans les autres clubs du pays sont en effet devenus trop chers pour le Sparta comme pour le Slavia, et leurs dirigeants préfèrent désormais les vendre directement à l'étranger, sans passer par les clubs de la capitale, comme cela était le cas auparavant.
Ces vendredis et samedis, l'île de Štvanice à Prague se transforme en podium de musique du monde avec des musiciens venus des quatre coins de la planète. Parmi les invités du festival Respect, le trio Joubran, formé par trois frères palestiniens issus d'une famille de luthiers qui jouent merveilleusement d'un instrument trop méconnu, le loud. On écoute un extrait. Voilà, c'est avec la très belle musique du trio Joubran que s'achève ces faits et événements. Le trio Joubran jouera à Prague samedi dans le cadre du festival Respect. Tout de suite, on retrouve le miroir de la société avec Alena Gebertova.
Miroir de la société, Alena Gebertova.
La République tchèque et la Belgique ont été choisies pour désigner une ville qui portera le titre de capitale européenne de la culture 2015. Il s'agit d'un titre qui est attribué chaque année à deux ou trois villes européennes. Pour la partie belge, la ville de Mons a déjà été sélectionnée. La Tchéquie, pour sa part, possède pour l'heure deux candidats, Ostrava et Plzeň. Le vainqueur du duel à l'amiable entre les deux villes devant être désigné en septembre prochain. La tension monte donc en attendant le verdict du jury international qui compte 7 représentants étrangers et 6 représentants nationaux. Ce sera le thème de notre rubrique bimensuelle d'aujourd'hui. Le lieu pour une vie heureuse, tel est le slogan du projet Ostrava 2015, ville située en Moravie du Nord, connue surtout comme ville minière. L'ambition d'Ostrava est pourtant bien plus large. Depuis longtemps, elle entend se faire connaître comme une ville qui bouge et qui possède une intense vie culturelle et sociale. Pour sa candidature au titre de capitale européenne de la culture 2015, elle a reçu un soutien de taille, celui de l'ex-président tchèque Václav Havel, qui a écrit à son sujet.
Ostrava, toujours trop loin de la capitale Prague, est dotée d'un genius loci très spécifique. Synonyme de l'industrie lourde et du charbon, elle n'est pas reconnue comme centre culturel ou éducatif. Ce désavantage lui a permis en même temps de résister à l'engineering social et à la pression de la mondialisation et de s'attendre à une forte revitalisation. C'est pour cette raison que j'appuie sa candidature, car il faut reconnaître, apprécier et développer la beauté discrète de notre paysage et de nos villes.
Depuis fin mai, Ostrava se présente à Prague avec un riche programme culturel. Pièces de théâtre, concerts, expositions qui rencontrent d'ailleurs un joli succès. Le récent concert donné par le très populaire groupe Bouti devant une salle pleine l'a confirmé. Plzeň, chef-lieu de Bohême occidentale, est connue de par le monde comme « ville de la bière ». Ses habitants aiment pourtant souligner avec un brin d'ironie que ce n'est pas la célèbre marque Pilsner Urquell qui a donné le nom à la ville, comme certains voudraient le croire, mais vice-versa. En présentant sa candidature au titre de capitale européenne de la culture 2015, Plzeň veut non seulement accentuer et améliorer son potentiel culturel, mais démontrer aussi, justement, que la ville mérite d'être reconnue également pour autre chose que sa fameuse bière. Nous nous sommes entretenus à ce sujet avec Ivona Kreuzmanová, directrice du projet Plzeň 2015.
C'est la ville qui a donné le nom à une des bières qui est la plus connue en tout le monde. Et je pense que la publicité de la ville devrait être aussi connectée avec la culture, les arts et vraiment le développement de la ville créatif.
Une façon de dire que le potentiel culturel de la ville est important.
Il est très important. Il faut dire qu'il y a une grande université qui se développe énormément. Et alors il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent absolument changer toute la culture dans la ville, qui est un peu traditionnelle à ce moment. Mais on voit le futur dans les arts contemporains et toutes les connexions parmi les disciplines artistiques.
Vous êtes directrice artistique du projet. En quoi consiste votre travail ?
Mon travail est bien difficile parce qu'il faut quand même créer la vision culturelle de la ville qui va dépasser beaucoup plus que l'année 2015. On travaille sur la nouvelle politique culturelle de la ville et de toute la région. Et en même temps, j'essaie vraiment de donner l'espace à toutes les petites activités dans la région et créer la vision qui est vraiment en connexion avec les habitants et qui va dépasser la frontière à travers la coopération sur les résidences et les réseaux artistiques dont je suis membre déjà longtemps.
L'un des buts de ce projet, à mon sens, c'est d'impliquer la population de la ville dans ce projet. Est-ce un défi difficile ?
C'est un peu difficile parce que la mentalité des Tchèques est encore assez fermée. C'est pourquoi on a aussi décidé à trouver l'ouverture comme le logo, le motto principal de notre candidature parce qu'ils ont ouvrir les gens aussi dedans. Ils sont pas encore prêts à communiquer tellement avec Europe, mais c'est pas seulement le problème de Pilsen, c'est le problème de tous les pays de l'Europe de l'Est.
Il paraît qu'il y a près de 10% de ressortissants étrangers qui vivent à Plzeň. Est-ce que le projet compte aussi éventuellement impliquer ces étrangers ?
Bien sûr, ce projet a beaucoup d'aspects sociaux et économiques et écologiques aussi. Et intégration des immigrants qui sont vraiment nombreux à Pilsen, c'est très important dans notre projet. On a créé une ligne de programmation qui travaille avec tout ce potentiel étranger.
Est-ce que vous-même, vous avez des liens qui vous attachent à Plzeň ?
Bien sûr, c'est surtout la tradition des marionnettes et des acteurs. Une grande actrice, c'était Anna Kreuzmanová qui a donné le nom à Manička, une des marionnettes très connues dans toute la République tchèque. Et c'était membre de la famille où j'ai bien sûr aussi joué le rôle. Et... En ce qui concerne la région, je suis ravie vraiment par la nature et j'y viens très souvent avec beaucoup de plaisir.
C'est une ville plaisante à vivre. Il y a une université, il y a pas mal de jeunes gens, d'étudiants.
C'est ça, même si maintenant le développement démographique n'est pas tellement bon. Je suppose qu'avec le projet culturel, on va attirer l'attention de beaucoup d'étudiants pour rester à Pilsen, pour créer les familles là-bas, parce que c'est une ville vraiment plaisante.
Il s'agit d'un duel entre deux villes tchèques, Ostrava et Plzeň. Quelles sont d'après vous les chances de Plzeň ?
Bien sûr que je crois que Pilsen sera la ville européenne de la culture parce que les chances de notre ville sont, de mon avis, plus grandes à cause des expériences de coopération artistique européenne, pas seulement régionale. On utilise le slogan en anglais qui veut dire « Pilsen open up ».
Když jsem šel z Vlej na vod Mariánky, Potkal jsem na záspit dva vojáky. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej. Vojáci milí, kam padete? Tady si namlouvat nebudete. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej.
Plzeň et Ostrava espèrent que l'obtention du titre augmentera leur prestige tout en leur apportant des avantages économiques et un plus grand intérêt des touristes. Rappelons que c'est en septembre que le verdict tranchant entre les deux villes sera prononcé. En Tchéquie, Prague a déjà été capitale européenne de la culture en 2000.
Blinář nám přislíbil jítrnice. Duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej, duli, duli, dej, duli, duli, dej, duli, 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 dej. Blinářka nám dá jelita prejt, aby jsme nechali dcerušku bejt. Duli, duli, dej, duli, duli, dej.
Les émissions en langue française de Radio Prague sur ondes courtes, c'est terminé, mais les émissions de Radio Prague continuent évidemment sur le web, en retranscrit. Notre adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Mlinářičku, mlináři, ubílenej ve tváři. Proč? Sis nevzal ženu jinou, tahle ta jen mele hubou vylehává pod peřinou. Mlinářičku, mlináři.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.